Chapitre 11. Journal de Lucie Westenra. 12 septembre.
Comme ils sont tous bons pour moi. J'aime beaucoup ce cher docteur Van Helsing. Je me demande pourquoi il s'est montré si angoissé à propos des fleurs. Il m'a véritablement effrayée. Il était si catégorique. Et pourtant, il doit avoir raison, car je ressens déjà de l'apaisement grâce à elle. Je ne ressens pas d'anxiété à l'idée d'être seule ce soir, et je peux m'endormir sans peur. Aucun bruissement d'ailes ne me dérangera à l'extérieur de ma fenêtre. Oh, quelle terrible lutte j'ai dû mener si souvent contre le sommeil. La douleur de l'insomnie ou la terreur du sommeil, qui est pour moi plein d'horreurs inconnues. Comme certaines personnes sont chanceuses de vivre sans peur, sans angoisse. Pour elles, le sommeil vient comme une bénédiction nocturne et n'apporte rien que de doux rêves. Eh bien, me voici cette nuit, espérant le sommeil, allongée comme Ophélie dans la pièce, avec les couronnes virginales et le lit de fleurs des jeunes filles. Je n'ai jamais aimé l'ail auparavant, mais cette nuit, c'est délicieux. Il y a une sorte de paix dans ce parfum. Je sens déjà le sommeil me prendre. Bonne nuit à tous. Journal du docteur Seward. 13 septembre.
Me suis rendu au Berkeley et ai trouvé, comme d'habitude, Van Helsing, prêt à l'heure convenue. La voiture commandée par l'hôtel nous attendait. Le professeur a pris sa sacoche, qu'il emporte d'ailleurs maintenant toujours avec lui. Soyons précis. Van Helsing et moi arrivâmes à Hillingham à 8 heures. C'était une charmante matinée. Le soleil éclatant et la fraîcheur de ce début d'automne donnaient l'impression que la nature achevait d'accomplir son travail de l'année. Les feuilles prenaient toutes sortes de magnifiques couleurs, mais n'avaient pas encore commencé à tomber des arbres. En entrant, nous rencontrâmes Mrs. Westenra qui sortait du petit salon. Elle se lève toujours très tôt. Elle nous accueillit chaleureusement et nous dit « Vous serez heureux de savoir que Lucie va mieux. La chère petite dort encore. J'ai jeté un œil dans sa chambre et je l'ai vue, mais je ne suis pas entré, je ne voulais pas la déranger. » Le professeur sourit et semblait jubilé intérieurement. Il se frotta les mains et dit « Ah ah ! Il me semblait bien avoir fait un bon diagnostic. Mon traitement est efficace. » À quoi elle répondit « Vous ne devez pas vous en attribuer tout le crédit, docteur. L'amélioration de l'état de santé de Lucie est aussi de mon fait. » « Que voulez-vous dire, madame ? » demanda le professeur. « Eh bien, j'étais inquiète pour la pauvre enfant cette nuit, et je suis allée dans sa chambre. Elle dormait profondément, à tel point que je ne l'ai même pas réveillée en entrant. Mais l'air de la chambre était horriblement étouffant. Il y avait partout de ces fleurs horribles à l'odeur insupportable. Et elle en avait même une sorte de guirlande autour du cou. Je craignais que cette odeur lourde ne soit difficile à supporter pour la pauvre enfant dans son état de faiblesse actuelle. Alors, j'ai enlevé toutes les fleurs et j'ai entrouvert la fenêtre pour faire entrer un peu d'air frais. Vous la trouverez mieux, j'en suis sûr. » Elle retourna au petit salon où elle prenait généralement son petit déjeuner. Pendant qu'elle avait parlé, j'avais observé le visage du professeur, et je l'avais vu virer au gris. Il avait pu rester maître de lui tant que la pauvre femme était présente. En effet, il connaissait son état de santé et savait combien un choc pouvait être désastreux. Et à vrai dire, il lui souriait encore quand il lui tenait la porte tandis qu'elle sortait de la pièce. Mais dès qu'elle eut disparu, il me poussa soudain de force dans la salle à manger et referma la porte. Alors, pour la première fois de ma vie, je vis Van Helsing fondre en larmes. Dans un geste de muet désespoir, il leva les mains au-dessus de sa tête, les joignit d'un air désespéré, puis il se laissa tomber dans un fauteuil, et, plongeant son visage dans les mains, commença à pleurer avec de gros sanglots qui semblait venir du plus profond de son cœur. Enfin, il leva de nouveau les mains et, semblant en appeler à l'univers tout entier, « Dieu, Dieu, Dieu » dit-il, « qu'avons-nous fait ? Qu'a fait cette pauvre petite pour que nous soyons si durement éprouvés? Est-ce donc une fatalité que, de nos jours encore, de telles choses puissent surgir du vieux monde païen de jadis et d'une telle façon? Cette pauvre mère, dans son ignorance et avec les meilleures intentions du monde, cause la perte de sa fille, de corps et âme. Et nous ne pouvons rien lui dire, nous ne devons même pas l'avertir, ou elle mourra, et alors les deux mourront. Oh, que nous sommes durement frappés! Et quelle puissance dans les forces démoniaques que nous devons affronter! Puis soudain, il bondit sur ses pieds. « Venez, dit-il, venez, nous devons aller voir et agir. Démon ou pas démon, et même s'il y avait tous les démons des enfers, peu importe, nous combattrons quoi qu'il arrive. » Il retourna dans le hall pour reprendre sa mallette, et nous gagnâmes ensuite la chambre de Lucie à l'étage. Une fois de plus, je remontai les stores, tandis que Van Helsing se dirigeait vers le lit. Cette fois, il ne sursauta pas à la vue du pauvre visage et de son horrible pâleur. Il exprimait plutôt une grande tristesse et une infinie pitié. « Comme je m'y attendais, murmura-t-il, avec cette inspiration sifflante qui était si révélatrice chez lui. » Sans ajouter un mot, il alla fermer la porte et commença à préparer sur la petite table les instruments nécessaires à une nouvelle transfusion de sang. J'en avais immédiatement compris la nécessité, et je commençais à ôter ma veste, mais il m'arrêta d'un geste. « Non, dit-il, aujourd'hui vous serez l'opérateur, et je serai le donneur. Vous êtes trop faible. » Et ce disant, il enlevait sa veste et remontait sa manche. À nouveau l'opération, à nouveau le narcotique, à nouveau les couleurs qui reviennent sur le visage blafard. Puis enfin le souffle régulier du sommeil réparateur. Ce fut ensuite à moi de la veiller, tandis que Van Helsing récupérait et se reposait. Cette fois, il informa Mrs. Westenra qu'elle ne devait rien ôter de la chambre de Lucie sans le consulter, que les fleurs avaient des vertus médicinales, et que leur parfum contribuait à la guérison de Lucie. Puis il reprit lui-même la surveillance de la malade, me disant qu'il la veillerait cette nuit et la suivante, et qu'il me préviendrait lorsqu'il aurait besoin de moi. Après une heure, Lucie s'éveilla, fraîche et joyeuse, malgré la terrible épreuve qu'elle venait de traverser. Quelle est la signification de tout ceci? Je commence à me demander si ma vie au milieu des aliénés ne commence pas à me porter sur le cerveau. Journal de Lucie Westenra. 17 septembre.
4 jours et 4 nuits de paix. Je reprends tant de force que je me reconnais à peine moi-même. C'est comme si j'étais passée par quelque long cauchemar et m'étais éveillée juste pour voir un soleil magnifique et sentir l'air frais du matin autour de moi. J'ai le vague souvenir de longs moments d'angoisse, d'attente et de peur, d'une obscurité dans laquelle il n'y avait même pas l'aiguillon de l'espoir pour rendre la détresse présente moins poignante. Et ensuite, de longues périodes d'oubli, et la remontée vers la vie comme un plongeur émergeant enfin d'une énorme masse d'eau. Depuis que le docteur Van Helsing est avec moi, en tout cas, tous ces mauvais rêves semblent s'être évanouis. Les bruits qui d'ordinaire me glaçaient les sangs, les bruits d'ailes contre les fenêtres, les voix lointaines qui semblaient toutes proches de moi, les sons brutaux venus de je ne sais où et me commandant de faire je ne sais quoi, tout a cessé. Je vais me coucher sans aucune peur de dormir. Je n'essaie même plus de rester éveillée. Je suis devenue une vraie adepte de l'ail et j'en reçois par colis entier chaque jour qui me viennent de Harlem. Ce soir, le docteur Van Helsing s'en va car il doit se rendre pour un jour à Amsterdam. Mais je n'ai pas besoin d'être veillée. Je vais assez bien pour être laissée seule. Grâce à Dieu, pour ma mère, pour mon cher Arthur et pour tous nos amis qui ont été si gentils. Je ne sentirai même pas la différence, car la nuit dernière, le docteur Van Helsing était endormi dans son fauteuil la plupart du temps. Je l'ai trouvé deux fois en train de dormir, alors que je m'éveillais. mais je n'ai pas eu peur de me rendormir, bien que des branches, ou les chauves-souris, ou je ne sais quoi d'autre, aient battu presque furieusement contre les volets.
Extrait de la gazette Le Pall Mall, 18 septembre, le loup échappé. Une aventure périlleuse de notre reporter. Interview du gardien des jardins zoologiques.
Après de nombreuses demandes et presque autant de refus, usant perpétuellement des mots Pall Mall Gazette comme d'une sorte de talisman, j'ai fini par trouver le gardien de la section des jardins zoologiques qui comprend le département des loups. Thomas Bilder vit dans l'un de ses cottages, à l'intérieur de l'enceinte qui se trouve derrière la maison des éléphants, et il était attablé pour son thé lorsque je l'ai trouvé. Thomas et sa femme sont des gens accueillants, âgés et sans enfants. Et si l'échantillon d'hospitalité que j'ai reçu chez eux est représentatif de leur ordinaire, je dirais que leurs vies sont plutôt confortables. Le gardien ne voulait pas aborder le sujet de ce qu'il appelait « les affaires » avant que le souper fût achevé et que nous fûmes tous satisfaits. Alors, quand la table fut débarrassée et qu'il eut allumé sa pipe, il dit « Maintenant, monsieur, vous pouvez y aller et me demander qu'est-ce que vous voulez. Vous me pardonnerez de refuser d'aborder les questions professionnelles avant le repas. J'ai l'habitude avec les loups, les chacals et les hyènes, leur donner leur thé avant que je commence à leur poser des questions. » « Que voulez-vous dire par leur poser des questions ?» demandai-je, soucieux de le mettre dans une humeur communicative. « Il y a la possibilité de les frapper sur la tête avec une barre. Il y a aussi la possibilité de leur gratter les oreilles quand les gars veulent un brin de démonstration pour épater les filles. Je ne suis pas friand de la première possibilité, les frapper avec une barre, avant que je leur porte à dîner. Mais j'attends toujours qu'ils aient bu leur chéri et leur café, pour ainsi dire, avant d'essayer de leur gratter les oreilles. Vous remarquerez, ajouta-t-il avec philosophie, que les bestiaux et nous, on n'est pas si différents. Vous, par exemple, vous déboulez et vous me posez des questions sur mon travail. Et moi, si c'était pas pour votre belle jeunesse et votre pourboire, je vous aurais envoyé bouler avant même de formuler une réponse. Même quand vous avez demandé de manière plutôt sarcastique si ça me plairait de vous voir demander au gardien en chef la permission de me poser les questions. Sans offense, est-ce que je vous ai pas dit d'aller vous faire voir ? Si, en effet, c'est ce que vous m'avez répondu. Et quand c'est que vous m'avez dit que vous rapporteriez mon langage grossier ? Ça, c'était me donner un coup de barre sur la tête. Mais j'avais pas envie de me battre, alors j'ai attendu la nourriture. Et j'ai juste poussé mon cri, comme les loups, les lions et les tigres. Mais que le Seigneur vous bénisse. Maintenant que la vieille m'a fourré son morceau de gâteau dans le caisson et m'a rincé avec sa vieille théière, vous pouvez me gratter les oreilles autant que vous voulez. Je ne vais même pas grogner. Allez-y avec vos questions. Je vous vois venir de toute façon. Vous allez me poser la question du loup échappé. « Exactement. Je voudrais connaître votre opinion là-dessus. Dites-moi seulement comment c'est arrivé, et quand je connaîtrai tous les faits, je vous demanderai quelle est votre analyse de la cause de ce phénomène et votre avis sur la façon dont tout cela va finir. »« D'accord, capitaine. Voilà toute l'histoire. Ce loup, qu'on appelait Berserker, c'est l'un des trois loups gris qui nous viennent de Norvège et qu'on a acheté à Jamrax, il y a de ça 4 ans. C'était un loup tout à fait correct, qui se comportait bien et qui n'a jamais fait parler de lui. » Ça m'a vraiment épaté que ce soit lui, et pas un autre animal, qui ait voulu se faire la malle. Mais vous voyez, ça prouve que vous pouvez pas faire confiance aux loups plus qu'aux femmes. « Faites pas attention à ce qu'il dit !» intervint Mrs. Tom, avec un rire chaleureux. « Il s'occupe des animaux depuis si longtemps qu'il est comme un vieux loup lui-même, mais y a pas de mal en lui. » « Eh bien, sœur, c'était à peu près 2 heures après leur repas hier que j'ai commencé à entendre du grabuge. » J'ai été en train d'installer la litière dans la maison des singes pour un jeune puma qui est malade. Mais quand j'ai entendu tout ce vacarme de gémissements et de hurlements, je suis sortie directement. Il y avait Berserker qui était comme un fou au barreau et il semblait vouloir sortir. Il n'y avait pas grand monde ce jour-là. Et à proximité, il n'y avait qu'un seul homme, un type grand et maigre, avec un nez crochu et une barbiche pointue, où il y avait quelques poils blancs. Il avait un air dur et froid et des yeux rouges. Et je l'ai tout de suite pris en grippe, parce que c'était lui qui énervait le loup. Il avait des gants blancs sur ses mains, et voilà qu'il montre les bêtes et qu'il me dit « Gardien, ce loup semble vouloir quelque chose. » « Peut-être ben que c'est vous, » je lui ai dit, parce que j'aimais pas trop les airs qui se donnaient. Mais il s'est pas mis en colère, comme je l'avais espéré. Il a juste souri d'une manière insolente, et sa bouche était pleine de dents blanches et pointues. « Oh non, » il a dit, « il n'apprécierait pas ma chair. »
« mais si », j'ai dit, en l'imitant. « Ils aiment bien avoir un os ou deux pour se curer les dents après le thé. Et pour sûr, vous êtes un sac d'os. » Eh bien, c'est une chose vraiment bizarre. Mais quand les animaux ont vu qu'on était en train de causer, ils se sont couchés. Et quand je suis allée voir le berciqueur, il m'a laissé lui gratter les oreilles comme d'habitude. Alors le type s'est approché. Et bon sang de bonsoir, il a avancé la main et il a caressé Berciqueur aussi. « Faites attention », j'ai dit, « Berciqueur est vif. » « Peu importe », il a dit, « j'ai l'habitude. »« Ah, vous êtes du métier ?» j'ai dit, en enlevant mon chapeau, parce qu'un type qui est dans le commerce des loups, c'est un ami pour un gardien. « Non », il a dit, « je ne suis pas vraiment du métier, mais j'en ai apprivoisé plusieurs. » Et sur ces mots, il a soulevé son chapeau avec des manières de lord, et il s'est éloigné. Le vieux berciqueur a continué à le suivre des yeux jusqu'à ce qu'il ait disparu. Et ensuite, il est parti et s'est couché dans un coin, et il n'a pas voulu en sortir de toute la soirée. Et puis hier soir, quand la lune s'est levée, tous les loups se sont mis à hurler. Ils n'avaient pourtant aucune raison de hurler. Il n'y avait personne autour, à part quelqu'un qui appelait un chien quelque part derrière le parc, sur la route. Une ou deux fois, je suis sortie pour vérifier que tout allait bien, et c'était le cas. Et puis les hurlements se sont tus. Juste avant minuit, j'ai fait un dernier tour avant de rentrer. Mais quand je suis arrivée en face de la cage du vieux berciqueur, j'ai vu les barreaux brisés et tordus, et la cage vide. Et c'est tout ce que je sais de manière sûre. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu quoi que ce soit ? Un de nos jardiniers était sur le chemin du retour après un concert, quand il a vu un gros chien gris qui sortait des bords du zoo. Du moins c'est ce qu'il a dit, mais je m'y fierais pas trop, parce qu'il n'avait pas dit un mot de tout ça à sa bonne femme quand il est rentré, et ce n'est que quand l'évasion du loup a été connue, et qu'on a passé toute la nuit à battre le parc pour retrouver Berciqueur, qu'il s'est rappelé avoir vu quelque chose. Mon avis personnel, c'est que c'est le concert qui lui a porté sur le cerveau. « Et maintenant, Mr. Bilder, êtes-vous capable de m'expliquer l'évasion du loup ?»« Eh bien, sœur, » dit-il avec une modestie un peu méfiante, « je crois que je le peux, mais je suis pas sûre que vous apprécierez ma théorie. »«
Je suis sûre que je l'apprécierais. Si un homme tel que vous, un fin connaisseur des animaux, qui tire son savoir d'une longue expérience, ne peut hasarder une théorie, alors qui d'autre pourra seulement essayer de le faire ?»
« Eh bien, sœur, je suis d'accord avec vous. Et il me semble, personnellement, que le loup s'est échappé tout simplement parce que il avait envie de sortir. »
À la façon cordiale dont Thomas et sa femme étaient en train de rire à cette plaisanterie, je compris qu'elle avait déjà fait de l'usage et qu'il me faudrait mériter l'explication complète. Je n'étais pas de taille à rivaliser d'humour avec l'excellent Thomas, mais il y avait un meilleur moyen de gagner son cœur. Et je dis... « Maintenant, Mr. Bilder, considérons que vous avez gagné la moitié de votre pourboire. Quant à l'autre moitié, elle attend que vous la réclamiez, quand vous m'aurez dit ce qui, à votre avis, va se passer maintenant. »«
Vous avez mille fois raison, » dit-il vivement. « Vous m'excusez si je vous taquine, mais la vieille m'a fait un clin d'œil pour me dire de continuer. »«
C'est faux, je n'ai pas cligné, » dit la vieille. « Mon opinion est la suivante. Le loup doit être en train de se cacher quelque part. » Le jardinier, qui ne se souvient de rien, a dit qu'il galopait vers le nord plus vite qu'un cheval. Mais je ne le crois pas parce que voyez-vous, sœur, les loups, ça galope pas plus que les chiens, c'est pas pour ça qu'ils ont été fabriqués. Les loups, c'est bien joli dans les histoires, ils se mettent en meute, en chasse de quelque chose de plus effrayé qu'eux, quoi que ça puisse être, et ils sont capables de faire un boucan d'enfer et de l'attraper. Mais Dieu vous bénisse, dans la vraie vie, les loups sont de créatures inférieures, qui n'ont pas la moitié de la jugeote d'un bon chien, et pas le quart de sa combativité. Celui-là non seulement n'avait pas l'habitude de se battre, mais il ne savait même pas se nourrir tout seul, et c'est probable qu'il soit quelque part dans le parc, en train de trembler et de se cacher. Et s'il pense un tant soit peu, pour sûr qu'il est en train de se demander d'où va sortir son petit déjeuner. Ou peut-être qu'il est descendu dans une cave à charbon du voisinage. Pardi, il y a une cuisinière qui va faire un joli saut en l'air quand elle verra ses deux yeux verts qui brillent dans le noir. Si on ne lui donne pas de nourriture, il va devoir s'en trouver lui-même. Avec un peu de chance, il tombera sur une boucherie. S'il n'a pas de chance et qu'il croise une nurse qui fricote avec un soldat et qui laisse un enfant sans surveillance dans un landau, alors je ne serais pas surpris qu'il manque un bébé au recensement. C'est tout. J'étais en train de lui tendre l'autre moitié du pourboire lorsque quelque chose cogna à la fenêtre et la figure naturellement longue de Mr. Bilder s'est encore allongée de surprise.
« Dieu me pardonne, dit-il, si c'est pas ce vieux berciqueur qui revient tout seul ?»
Il alla à la porte et l'ouvrit.
Un acte absolument superfétatoire, selon moi. J'ai toujours trouvé qu'un animal sauvage était d'autant plus admirable qu'il se trouvait derrière un obstacle dont la résistance était prouvée. Mon expérience personnelle a d'ailleurs intensifié plutôt que diminué ce préjugé. Toute la scène offrait un mélange inextricable de comique et de pathétique. Le méchant loup qui pendant tout un jour avait paralysé Londres et fait trembler tous les gamins dans leurs chaussures se trouvait là, avec un air penaud, et fut accueilli et flatté comme une sorte de version vulpine du fils prodigue. Le vieux Bilder l'examina partout avec une tendre sollicitude, et quand il en eut fini avec son pénitent, il dit « Et voilà, je savais bien qu'il allait le pauvre se fourrer dans des ennuis. Est-ce que je ne le répète pas depuis le début? Il a la tête toute coupée, pleine de verres brisés. Il a dû essayer de franchir un mur. C'est-il pas une honte que les gens soient autorisés à garnir le haut de leur mur avec des bris de verre? Voilà ce que ça donne. Viens là, Bercy-cœur. » Il prit le loup et l'enferma dans une cage avec un morceau de viande qui correspondait, au moins par la quantité, à l'idée qu'on peut se faire d'un veau gras. Et il alla faire son rapport. Je sortis également, afin de vous rapporter la seule exclusivité de la journée concernant cette étrange escapade au zoo. Journal du docteur Seward, 17 septembre.
J'étais occupé dans mon bureau après le dîner à rattraper le retard qui s'était accumulé dans mon travail à cause d'autres tâches et de mes nombreuses visites à Lucie. Soudain, la porte s'ouvrit violemment et mon patient se précipita à l'intérieur, le visage en proie à une violente émotion. Je restai figé sur place, car un tel événement, un patient pénétrant de son propre chef dans le bureau du directeur, personne n'avait jamais vu cela. Il avait un couteau dans la main et, comprenant qu'il était dangereux, je m'efforçai de garder la table entre lui et moi. Mais il était trop rapide et trop fort pour moi, et avant que je ne puisse me mettre en garde, il m'avait frappé, m'entaillant sévèrement le poignet gauche. Mais avant qu'il ne me frappe de nouveau, je lui envoyai une droite qui l'étendit au sol. Mon poignet saignait abondamment, et le sang formait une petite mare sur le tapis. Je vis que mon ami ne comptait pas poursuivre la lutte. Aussi, je bandai ma blessure au poignet, tout en ne quittant pas des yeux l'homme prostré au sol. Quand les surveillants se ruèrent dans la pièce, nous nous occupâmes de lui, et je fus littéralement malade de voir à quelle activité il se livrait. Il était étendu sur le ventre et léché comme un chien le sang qui s'était écoulé de ma blessure au poignet. On se saisit de lui sans difficulté, et à mon grand étonnement, il suivit docilement les surveillants, répétant sans cesse « Le sang, c'est la vie ! Le sang, c'est la vie !» Je ne puis vraiment me permettre de perdre du sang en ce moment. J'en ai déjà perdu trop ces derniers jours. Et à vrai dire, la maladie de Lucie et ses horribles développements me pèsent beaucoup. Je suis surexcité et épuisé. Et j'ai besoin de repos, de repos, de repos. Par bonheur, Van Helsing n'a pas fait appel à moi, et cette nuit, je n'aurais pas à veiller. Tant mieux, car je n'aurais pas pu le supporter.
Télégramme de Van Helsing, Anvers, à Seward, Carfax. Envoyé à Carfax dans le Sussex, faute de mention du nom du comté, remis avec 22 heures de retard. 17 septembre.
Soyez sans faute à Hillingham ce soir. Si pas possible de veiller en permanence, allez voir souvent si Fleur encore en place. Très important. Serai avec vous dès que possible, une fois arrivé.
Journal du docteur Seward, 18 septembre.
Je prends le train pour Londres. L'arrivée du télégramme de Van Helsing m'a consterné. Une nuit entière de perdu, et je sais par expérience ce qui peut arriver de tragique en une nuit. Bien sûr, il est possible que tout aille bien, mais par ailleurs, que peut-il être arrivé? Sans aucun doute, une terrible malédiction pèse sur nous, pour que tous les incidents possibles et imaginables viennent sans cesse contrarier nos efforts. Je vais prendre ce cylindre avec moi, et je pourrai compléter mon enregistrement sur le phonographe de Lucie. Mémorandum laissé par Lucie Westenra. 18 septembre, pendant la nuit.
J'écris ces lignes et je les laisse en évidence, afin d'éviter que quiconque ait des problèmes à cause de moi. Ceci est le rapport fidèle de ce qui s'est passé cette nuit. Je sens que je meurs de faiblesse et j'ai à peine la force d'écrire, mais cela doit être fait, même si je meurs en le faisant. Je suis allée au lit comme d'habitude, en faisant très attention à ce que les fleurs soient placées à la manière indiquée par le docteur Van Helsing, et je me suis endormie rapidement. J'ai été réveillée par le bruissement d'ailes à la fenêtre. Ce bruissement qui a commencé juste après mon épisode somnambulique sur la falaise de Whitby, quand Mina m'a sauvée, et qui m'est devenu si familier. Je n'avais pas peur, mais je souhaitais vivement que le docteur Seward fût dans la pièce d'à côté, où le docteur Van Helsing m'avait affirmé qu'il serait, afin qu'il soit à portée de voix. J'essayais de m'endormir, mais ce fut impossible. Ma vieille peur de dormir me revenait, et je décidai de rester éveillée. Avec une certaine perversité, le sommeil s'imposa à moi alors que je ne le cherchais plus. Aussi, comme je craignais d'être seule, j'ouvris ma porte et appelai. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Il n'y eut pas de réponse. J'avais peur de réveiller maman, aussi je refermai ma porte. C'est alors que j'entendis, en provenance du jardin, une sorte d'aboiement de chien, mais plus sauvage et plus grave. J'allai à la fenêtre pour regarder, mais je ne pus rien voir, à l'exception d'une grosse chauve-souris qui avait manifestement cogné ses ailes contre la fenêtre. Je retournai donc au lit, mais déterminée à ne pas dormir. À cet instant, la porte s'ouvrit et ma mère regarda à l'intérieur. Voyant que je ne dormais pas, elle entra et s'assit à mon chevet. Elle me dit, encore plus doucement et plus bas que d'habitude, « J'avais une inquiétude à ton sujet, ma chérie, et je suis juste venue voir si tout allait bien. » Comme j'avais peur qu'elle n'attrape froid à rester ainsi assise, je lui ai demandé de venir dans le lit avec moi, ce qu'elle fit. Elle s'allongea à mes côtés, sans ôter sa robe de chambre, car elle ne voulait rester qu'un moment avant de rejoindre son propre lit. Alors que nous étions enlacés, le bruissement d'ailes et leur choc contre la fenêtre recommencèrent. Maman en fut un peu effrayée et gémit « Qu'est-ce que c'est ?» J'essayais de la rassurer et j'y réussis enfin car elle se calma. Mais je pouvais entendre son pauvre cœur qui cognait encore terriblement dans sa poitrine. Après un moment, il y eut à nouveau le hurlement grave dans le jardin. Et presque aussitôt, la vitre de la fenêtre vola en éclats et un flot de verre brisé se répandit dans la chambre. Le volet claqua avec le vent qui s'engouffrait à l'intérieur et dans l'ouverture de la fenêtre cassée, il y avait la tête d'un grand loup gris famélique. Maman hurla de frayeur et se débattit pour s'asseoir, s'accrochant désespérément à ce qu'elle pouvait. Parmi d'autres choses, elle s'agrippa au collier de fleurs que le docteur Van Helsing avait insisté pour que je porte et me l'arracha. Pendant un bref instant, elle pointa le loup, sa gorge pleine d'un gargouillis étrange et horrible. Puis elle retomba, comme frappée par la foudre, et sa tête heurta mon front. Je fus sonnée pendant un moment. La pièce et tout alentour semblait tanguer. Je gardai les yeux rivés sur la fenêtre, mais le loup retira sa tête, et je vis une myriade de petits grains de poussière qui avançaient comme une nuée à travers la fenêtre brisée, tournoyant comme les colonnes de sable soulevées par le simoun dans les récits des voyageurs revenant du désert. Je voulais bouger, mais j'étais comme pétrifiée, et le corps de ma chère maman qui paraissait déjà se refroidir, car son cœur avait cessé de battre, m'écrasait, et je crois que je perdis conscience pendant un moment. Ces instants avant que je reprenne mes esprits ne me parurent pas vraiment longs, mais vraiment, vraiment affreux. Quelque part aux environs, un glas sonnait, tous les chiens du quartier hurlaient, et dans notre petit jardin juste à côté, me semble-t-il, chantait un rossignol. J'étais totalement paralysée et stupéfiée par la douleur, la terreur et la faiblesse. Mais la voix du rossignol m'apparaissait comme la voix de ma chère maman, revenue pour me soutenir. Tout ce vacarme semblait également avoir réveillé les femmes de chambre, car j'entendais leurs pieds nus trottiner derrière ma porte. Je les appelais et elles vinrent. et lorsqu'elles virent ce qui s'était passé et sous quoi je me trouvais dans le lit, elles poussèrent des hurlements. Le vent s'engouffrait par la fenêtre cassée et la porte claqua aussi. Elles soulevèrent le corps de ma chère maman, le couchèrent et le recouvrirent d'un drap après que je me fus levée. Elles étaient si effrayées et si nerveuses que je leur ordonnai à toutes d'aller dans la salle à manger et de se servir un verre de vin chacune. La porte s'ouvrit un instant et se referma en claquant. Les femmes de chambre crièrent, puis partirent en bas, et je déposai les fleurs dont je disposais sur la poitrine de ma chère maman. Quand elles furent disposées, je me souvins de ce que le docteur Van Helsing m'avait dit, mais je n'avais pas le cœur à les retirer, et de plus, j'aurais désormais les servantes pour veiller avec moi. Je m'étonnais d'ailleurs qu'elles ne revinssent pas. Je les appelai, mais ne reçus aucune réponse. Aussi je me rendis dans la salle à manger pour les chercher. Mon cœur chavira lorsque je vis ce qui était arrivé. Toutes les quatre gisaient sur le sol, respirant avec difficulté. La carafe de chéri se trouvait sur la table, à moitié pleine, mais elle dégageait une odeur étrange et âcre. Suspicieuse, j'examinai la carafe. Elle sentait le laudanum, et en regardant sur le buffet, je vis que la fiole dont le docteur de maman se sert pour elle, ou plutôt se servait, était vide. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Je suis revenue dans la chambre avec maman. Je ne peux pas la laisser, et je suis seule en dehors des servantes endormies, que quelqu'un a droguée, seule avec le cadavre. Je n'ose pas sortir, car j'entends le hurlement caverneux du loup à travers la fenêtre cassée. L'air semble plein de poussière, qui flotte et tournoie dans le courant d'air de la fenêtre, et la flamme de la lampe tourne au bleu et vacille. Que dois-je faire? Que Dieu me protège du mal cette nuit. Je cacherai ce papier dans mon corsage afin qu'on l'y trouve quand on me sortira d'ici. Ma chère mère, partie. Il est temps que je parte aussi. Adieu, mon cher Arthur, si je ne survis pas à cette nuit. Que Dieu vous garde et qu'il me vienne en aide.